7h26, le Dr Weiss nous accompagne depuis le début de cette pandémie, répond régulièrement à vos questions. Et en cette fin de saison, je me suis dit, on va l'inviter pour un peu faire le point sur l'ensemble de vos interrogations puis les données les plus fraîches qu'on a sur le plan scientifique. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
Beaucoup de questions des auditeurs. On le voit actuellement avec la gestion des vaccins qui entrent, moins de Pfizer, plus de Moderna. La semaine dernière, on se disait passer de AstraZeneca à un vaccin Pfizer ou Moderna, ça va. Puis là, les gens se disent, font même proposer, j'ai Moderna ou en fait j'ai Pfizer puis on me propose Moderna. Qu'est-ce qu'on doit penser là de passer d'un fabricant à l'autre?
Ben, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'arrêt des vaccins, c'est quelque chose de très temporaire. Quand je dis l'arrêt, c'est moins de livraison pendant une semaine ou deux. Mais au Québec et au Canada, on en reçoit quand même relativement beaucoup de vaccins. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne devrait plus commencer à essayer de se contorsionner, à trouver des politiques de vaccination pour vacciner parce qu'on n'a pas de vaccin. Donc là, on va en avoir des vaccins, on en aura beaucoup. La règle, c'est la suivante généralement, c'est qu'on reste avec le même vaccin entre la première et la deuxième dose. C'est ce qui est actuellement recommandé. Oui, on pourrait, dans des situations d'urgence, de crise qu'on n'est pas, mélanger des doses, mais pas avec les vaccins ARN. Donc moi, ce que je dis, c'est vous avez reçu Pfizer, vous recevez Pfizer, vous avez reçu Moderna, vous recevez Moderna. Là où le bas blessé, c'était pour AstraZeneca, on l'a vu. Donc pour AstraZeneca, c'est clair qu'il n'y a plus de raison de donner une deuxième dose d'AstraZeneca à personne. On en a discuté dans le passé. Mmh. Si vous avez reçu un AstraZeneca, c'est clair qu'on vous suggère de recevoir un des deux autres vaccins, Pfizer ou Moderna. Là où je vous dirais le problème blesse un petit peu actuellement et on commence à le voir, c'est qu'au Québec, on a une situation très particulière. On a dit aux gens qui ont fait la COVID, vous avez besoin juste d'une dose. À une époque, on n'avait pas de vaccin et en réalité, ces gens-là ont besoin de deux doses, comme partout ailleurs au Canada et partout ailleurs en Amérique du Nord.
Bon, c'était ma deuxième question sur la deuxième dose pour les gens qui ont eu la COVID. Peu importe la date où vous avez eu la COVID, puis on le voit, là, pour voyager à l'étranger, ça prend une preuve de double vaccination.
Ces gens-là risquent d'être pénalisés en premier lieu, mais ce n'est pas vraiment pour le fait qu'ils soient pénalisés, c'est tout simplement pour le fait qu'actuellement, le fait d'avoir dit on ne donnera pas de deuxième dose à ces gens-là n'était pas sur des bases scientifiques solides. C'était encore une fois une recommandation à une époque où on manquait de vaccins sur des données de réponses d'anticorps, mais qui ne sont pas des réponses vraiment de protection clinique à long terme. Et puis donc, les recommandations canadiennes sont claires là-dessus. C'est ce que les 9 autres provinces font. On donne 2 doses à tout le monde. C'est ce qui est fait aux États-Unis. C'est ce qui est fait dans l'immense majorité des autres pays qui ont des recommandations sur la planète. Donc, l'idéal, et il n'y a aucune contre-indication à donner 2 doses à des gens qui ont fait la COVID. C'est sûr que si vous avez fait une COVID, dans les 8 semaines ou 12 semaines suivantes, vous avez une certaine protection. Donc, il n'y a pas une urgence à recevoir votre dose de vaccin. Mais de façon générale, je pense que si on veut protéger les gens à long terme, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez eu la COVID au mois de mars 2020, on va dire, ou au mois de mai 2020, et vous avez reçu votre première dose un an plus tard parce que vous n'étiez pas un travailleur de la santé, donc pas prioritaire, et vous étiez quelqu'un de relativement jeune, c'est certain que vous allez avoir besoin d'une deuxième dose pour vous protéger à long terme.
Je reviens justement à la notion de passer d'un vaccin à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent devancer leur deuxième rendez-vous. Et l'exemple, on a eu Pfizer, mais là, c'est Moderna qui est disponible. Préférable d'attendre que le Pfizer revienne en quantité, même si on retarde un peu d'une semaine, deux semaines, trois semaines, la deuxième dose.
Oui, je pense que rendu à là, surtout pour des gens, on va dire, en bas de 60 ans, en pleine forme, là, une ou deux semaines, ça n'a pas beaucoup de différence. C'est pas que ce serait mauvais de faire une combinaison différente, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup étudié cette combinaison sur la protection à long terme. Chacun des vaccins a son mode d'action qui est un peu différent, donc c'est juste une question de protection à long terme. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, je vous dirais, à recevoir vos deux doses. Par contre, ce qu'il faut souligner dans ce que vous venez de dire, c'est qu'au Québec, quand on est capable de vacciner, il faut vacciner. Peu importe, je pense, maintenant, les notions, il faut beaucoup plus de souplesse au système, dans le sens que quand quelqu'un n'a pas atteint son 8 semaines entre les deux doses, et n'oubliez pas qu'on a commencé encore une fois à 12 semaines, on est passé à 8 semaines, encore une fois, pour une question de disponibilité de doses, avec des recommandations quand même du manufacturier qui étaient de 21 jours ou de 28 jours. Donc, on devrait, surtout pour les plus jeunes qui se présentent pour avoir leur deuxième dose, on sait qu'on a des problèmes pour vacciner les plus jeunes, alors quand ils se présentent, il faut leur donner leur deuxième dose avec plaisir.
Bon, on a vu hier la politique fédérale concernant les gens qui voyagent, donc la preuve de la double vaccination, pas de quarantaine, des tests. Mais pour les parents qui ont de jeunes enfants, ça veut dire qu'eux n'auront pas la quarantaine, mais que les enfants, exemple de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ne peuvent pas pour l'instant être vaccinés, vont devoir être en quarantaine. Comment on explique ça à des parents?
Ben, c'est vrai que c'est compliqué et difficile, mais la première chose qu'il faut dire, c'est que le gouvernement fédéral, avec raison, va avec prudence. Donc, ça peut paraître un petit peu illogique, mais on va avec des petits pas, on avance. Deuxièmement, on sait que les enfants ne sont pas très malades, mais on voit que les enfants non vaccinés peuvent être des chevaux de Troie pour réintroduire le virus dans une communauté. On le voit dans certains pays. L'exemple, c'est Israël actuellement qui a quasiment plus de cas, qui a réussi à se promener avec des taux à zéro, mais qui commence à avoir quelques cas parmi les jeunes enfants non vaccinés, avec des éclosions dans des écoles, donc des enfants pas malades, pas forcément très 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 malades ou quoi que ce soit, mais on voit des petites éclosions ici et là. Et avec l'arrivée des variants, surtout le Delta, qui va devenir notre variant dominant au fur et à mesure, et le fait qu'on ouvre les frontières tranquillement, qui permettra aux gens de voyager. Ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que des gens reviennent, que les parents soient totalement corrects, immunisés, protégés, mais que les jeunes enfants, même si eux, sur une base personnelle, soient en pleine forme, rentre avec un des nouveaux variants, soit un peu un vecteur. Et comme on a quand même une population qui n'est pas toujours entièrement vaccinée, on parle des plus jeunes, des jeunes adultes, et il ne faut pas oublier que le vaccin n'est quand même pas 100% efficace, surtout pour des populations à risque. Donc, on ne veut pas introduire des nouvelles souches. Je vous dirais probablement que ça va disparaître avec le temps, quand on va avoir de plus en plus d'informations là-dessus, mais c'est juste une question de sécurité. Là, je pense que les gens veulent avoir une double ceinture pour être protégés contre une explosion de cas au Canada.
Je reviens juste sur la vaccination pure. Il y a beaucoup d'auditeurs qui disent « nous avons reçu les deux doses d'AstraZeneca ». C'est suffisant comme protection ou s'il faut qu'ils pensent à autre chose?
Non, s'ils ont reçu les deux doses d'AstraZeneca en dépit des problèmes qu'il y a eu avec ce vaccin, ils sont protégés, doivent se considérer comme protégés, non pas aller chercher une troisième dose. Il y a certaines limites avec le variant sud-africain, mais qui n'est pas un gros problème majeur dans notre environnement pour l'instant et qui ne le sera pas avec l'émergence du variant indien, donc le variant Delta. Donc si vous avez eu deux doses d'AstraZeneca, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous n'avez pas besoin d'une troisième dose.
Vous l'avez dit tantôt au sujet du variant, on le voit en Grande-Bretagne, bon, il est plus que dominant. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière des expériences vécues ailleurs, que, et quand la vaccination est avancée, il y a des cas, mais il n'y a pas des cas lourds comme on a connu, par exemple, deuxième, troisième vague?
Ben, tout à fait. Vous avez vu l'exemple de notre série canadien à Las Vegas, entre qui était malade, hein, l'entraîneur, le directeur général, etc. Ces gens-là, finalement, ont testé positif, mais ils sont pas malades. Donc, il faut faire aussi attention, et ça, on va l'apprendre. À un moment donné, peut-être qu'on n'aura plus besoin de tester les gens qui sont doublement vaccinés. Parce que ce qui va arriver, c'est que parmi les gens doublement vaccinés, on va certainement trouver des cas positifs, mais on sait que c'est des gens qui seront pas malades. Donc, personnellement, ils sont juste porteurs, mais zéro symptôme. Puis deuxièmement, leur capacité de transmettre le virus est quasiment nulle. Alors, c'est un apprentissage. Est-ce qu'on aura besoin de continuellement tester dans une éclosion des gens qui sont vaccinés? On a commencé à voir ça avec les travailleurs de la santé au Québec. J'ai vu plusieurs cas où les parents, par exemple, des travailleurs de la santé vaccinés deux fois ont été testés parce qu'il y avait une éclosion dans l'école de leur enfant. L'enfant est sorti positif, on teste les parents. Puis là, les parents sortent positifs, mais les parents sont totalement asymptomatiques, c'est-à-dire si on les avait pas testés, on n'aurait jamais su qu'ils étaient positifs. Et probablement que ces gens-là ne sont pas très contagieux, pour ne pas dire contagieux. Donc on va apprendre avec ça, et probablement que les gens pleinement vaccinés, à un moment donné, on les testera moins, parce que on teste probablement un peu trop pour l'instant, mais c'est un apprentissage encore.
C'est important ce que vous soulignez, c'est-à-dire que le vaccin nous protège, ou en tout cas vient surtout faire en sorte que si on développe la maladie, il n'y aura pas de symptômes ou très peu, et donc on n'a pas les symptômes les plus sévères, mais en même temps limite la capacité de propager le virus.
Tout à fait. Alors ça, on sait de plus en plus que ce qu'on appelle la charge virale, donc la quantité de virus que vous avez, puis je vais essayer de l'expliquer de façon très simple, hein. Plus vous avez du virus dans vos voies aériennes, donc dans votre nez, dans votre pharynx, dans votre gorge, plus vous avez de chances de le transmettre, hein. C'est un peu normal. Là, si je me promène avec plein de virus, ben, quand je parle, j'ai plus de chances d'envoyer des particules virales dans l'air que si j'en ai pas beaucoup. Or, un virus, ça ne peut pas se multiplier tout seul. Alors, si on revient à comment un virus agit, si je suis dans la rue et j'attrape le virus de la COVID, et donc j'attrape 50 virus, on va dire, ben, ces 50 virus, quand ils vont rentrer dans moi, ils vont vouloir se multiplier parce que c'est ce que fait un virus. Donc, ils vont infecter ma cellule et puis chaque cellule va fabriquer 10, 20 virus. Donc, chaque virus va entraîner une fabrication, on va dire, de 10 à 20 virus supplémentaires. Donc, rapidement, je vais avoir beaucoup de virus. Et si je rencontre quelqu'un d'autre, je vais l'infecter. Par contre, si je suis vacciné, ce qui va arriver, c'est que dès que le virus va arriver, les 50 virus qui arrivent, beaucoup vont être immédiatement neutralisés par mes anticorps. Donc, ils n'auront même pas la capacité de pouvoir commencer à se répliquer. Donc, au bout d'une journée, au lieu d'avoir, on va dire, 1 million de virus dans ma gorge, je vais en avoir 25. Donc, ma capacité, si vous voulez, d'infecter les autres va être très, très faible, mais... Le corollaire de ça, c'est que si vous me testez, vous allez peut-être me trouver positif parce que j'en ai quand même un petit peu des virus dans la bouche. Mais par contre, ça n'a pas beaucoup d'implications et de signification en tant que tel.
Beaucoup de questions de parents qui se préparent à envoyer leurs enfants à des camps de jour ou des camps de vacances. Dans le cas des plus vieux, en fait, adolescents, ils sont vaccinés, première dose déjà. Il y a des parents qui sont inquiets d'envoyer leurs enfants dans des camps. Qu'est-ce que vous leur dites?
Moi, je pense que d'abord, c'est très positif du côté, on va dire, social, du côté interaction. Je pense, après tout ce qui est arrivé, d'envoyer des enfants pour qu'ils puissent interagir avec d'autres enfants, il y a un côté bénéfique de faire des activités extérieures, etc. Donc, ça, c'est le côté très positif. Le côté positif aussi, c'est que la COVID, actuellement, globalement, au Québec, est sous contrôle. Donc, on n'a pas beaucoup de COVID circulant. Et puis, on a quand même maintenant, on est habitué à avoir un réseau de dépistage rapide si on commence à avoir une éclosion. Il ne faut pas oublier non plus, peut-être, que les gens qui vont s'occuper de ces enfants-là sont des jeunes adultes qui, j'espère, vont être vaccinés. Donc, ça va limiter aussi la transmission possible. Donc, dans le contexte actuel, moi, je ne serais pas inquiet d'envoyer des enfants actuellement dans des camps de vacances, surtout si, je vous dirais, la majorité des gens qui s'en occupent sont vaccinés. Et si c'est des enfants en santé, il ne leur arrivera pas grand-chose.
En terminant, donc, gardons un œil sur ce qui se passe à la frontière, et non seulement à la frontière canado-américaine, mais également sur la façon dont la COVID se développe dans les autres pays.
Tout à fait. Il faut rester très vigilant là-dessus parce que vous savez qu'actuellement, en Afrique, en Moyen-Orient, en Amérique du Sud, les cas de COVID commencent à augmenter de façon importante. Donc, même si en Amérique du Nord, on est en train de se sortir de la COVID-19 avec beaucoup de succès, je vous dirais, aux États-Unis et au Canada, on a encore des défis à l'échelle planétaire. Donc, la bataille n'est pas finie pour tout le monde et il faut faire attention avec ça. Et il faut continuer la vaccination parce que c'est notre passeport de sortie. Et en dépit des petits problèmes ici et là, on l'a vu avec l'X-Santé, on l'a vu avec le fait qu'on n'est pas capable d'obtenir nos certificats de vaccination au point de vue Internet à l'occasion. Il y a beaucoup de problèmes de techniques. La campagne de vaccination avance et je pense que là, il faut continuer d'encourager les gens à se faire vacciner, d'avoir leur deuxième dose. Il faut beaucoup de souplesse dans cette campagne-là. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des vacances d'été qui vont être agréables, avec sans éclosion, et aussi un retour à l'automne qui va être beaucoup plus facile à gérer pour tout le monde. Parce qu'on le voit maintenant, regardez, la population vaccinée, le nombre de cas diminue. Et surtout, ce qui est important, dans les hôpitaux, le nombre de cas sévères aux soins intensifs, etc., reste très, très bas, est en diminution constante, et ça, c'est très positif.
Dr Weiss, merci beaucoup de votre grande disponibilité, de la clarté de vos réponses. Je vous souhaite un très bon été.
Eh bien, à vous aussi, puis merci beaucoup et à la prochaine.
Au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.